Afternoon, everybody. No!
We'd like the Black Legion to stop this farmer strike on behalf of American prosperity. And in return, we're offering substantial support for as long as our business interests and your moral crusade both continue to happily coincide.
God damn it, Chantal! What is wrong with you?
What do you think banks do with money? Put it in other banks? No, they do what everyone with money does. They use it to rout and pillage and plunder because that is the American way.
So Alex Ciambrulli claims that he got a hand job from Sarah Pearson.
Hold on. I can't talk to you about that.
Murder board. Murder board. Murder. No chanting.
You're slut shaming me. Shame on you.
Girl, can you come down off the cross? We need the wood.
Happen Leonard! Come out and play!
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, cette émission qui vous parle série télévisée, avec l'ami Aurore qui me joint en studio. Bonjour Aurore.
Bonjour.
Nous sommes repartis pour une nouvelle édition avec ce 9e épisode de la saison 6 déjà, la revue de série que tu as pu visionner pour nous pour débuter comme chaque semaine. On écoute la première que tu as pu choisir pour nous.
Alors, aujourd'hui, on va aller, en tout cas pour les deux nouveautés que je vais présenter, du côté de l'Angleterre, pour une fois. Ça va nous changer, avec deux nouveautés de la BBC qui m'ont plutôt bien plu, tapé dans l'œil. La première, je commence tout de suite, s'appelle Press. C'est celle qui, d'après moi, vaut le plus la peine. Ça nous parle de quoi? Tu t'en doutes un
de
petit
presse.
Peu. Hein, de la presse,
d'accord.
Exactement. De l'état de la presse en Angleterre, notamment, même si on pourrait probablement, sans trop de difficultés, le transposer dans d'autres pays aussi. C'est-à-dire, évidemment, une crise de la presse en général et de la presse sérieuse, traditionnelle, encore plus en particulier. Donc on a justement dans cette série un premier journal, je crois qu'il s'appelle le Herald, qui représente comme ça l'institution très sérieuse de l'organe de presse qui vit des heures très difficiles et qui essaie de s'en sortir, notamment face à la grande concurrence de ce qu'ils ont quasiment tous en horreur, hein, les journalistes qui travaillent là-dedans, c'est-à-dire la presse à scandale qui se trouve justement dans le bâtiment juste en face, puisqu'il se situe sur la même place et qui, je me souviens plus comment il s'appelle d'ailleurs le journal à scandale. Toujours est-il que donc on va avoir en parallèle et petit à petit, mais avec de plus en plus de liens qui vont se faire, on va suivre la manière dont l'actualité va pouvoir être abordée et traitée dans le journal sérieux, et puis la manière dont ce sera traité dans le journal à scandale, avec les enjeux aussi, notamment financiers, qui peuvent se cacher derrière tout ça. Et puis aussi, une question qui se fait jour et dont on ne sait encore pas trop comment la prendre. Là, j'ai pas encore vu le tout dernier épisode. Hein. C'est une série qui, pour sa première saison en tout cas, avait 6 épisodes. J'en ai vu 5. Donc, je me suis gardé le petit dernier pour un peu plus tard. J'aime bien me réserver un petit peu de surprise encore avant d'en parler. Mais il y a vraiment un discours surtout incarné par le personnage du directeur de publication, je ne sais pas exactement comment on appelle le titre de ces personnes-là, mais en tout cas celui qui est vraiment en charge de l'ensemble de l'équipe des journalistes du côté donc du journal à scandale. Ah, c'est le Poste.
De Poste, voilà, j'avais été vérifié. Hérald versus De Poste.
Voilà, et il met quand même en avant l'idée que en étant parfois un peu borderline, en ne respectant pas toujours la déontologie journalistique, bref, en étant tout presse à scandale qu'ils peuvent être, ils peuvent éventuellement à certains moments être plus efficaces dans leur métier de journaliste et leur fonction quasiment sociale du coup que prétendent quand même incarner au minimum les journalistes du Herald. Il y a la question qu'on se pose de savoir si parfois il faudrait pas contourner les règles pour être plus percutant et pour que ça fonctionne vraiment, même si c'est très fort contrebalancé aussi par l'idée des manipulations possibles. Tout ça n'est pas du tout épargné. Alors, et tu le sais, je ne suis pas du tout journaliste, je n'ai jamais travaillé dans la presse, donc il est très très possible que ça m'ait plu parce que finalement ça ne me dérange pas de ne pas avoir quelque chose de réaliste. Hein. J'ai un petit peu l'impression, alors c'est peut-être qu'une impression, mais le fait de ne pas en avoir énormément entendu parler, je me demande si c'est pas parce que justement les vrais critiques, entre guillemets, ceux qui travaillent vraiment dans la presse, auraient tendance peut-être à se dire que c'est pas très crédible. C'était déjà la critique qu'on avait pu entendre à l'époque de Newsroom, si tu te souviens bien, où la vision un petit peu trop idyllique a posé problème à certains journalistes. Ici, c'est clairement pas une vision idyllique, hein, mais j'imagine que c'est quand même très caricatural. Faut bien l'avouer, mais je trouve que c'est du caricatural qui marche très bien, parce que quelque part, le fait de fonctionner sur c'est pas vraiment des stéréotypes en tant que tels, mais c'est plus des types très facilement identifiables et qui portent toute une symbolique et toutes des questions, notamment philosophico-politiques, si tu vois de quoi je veux parler autour du métier de journaliste, c'est vraiment intéressant, et donc ça m'a pas du tout semblé dérangeant que qu'on aille un peu vite en besogne. Alors c'est vrai, peut-être que j'obtiendrai entière satisfaction au dernier épisode, mais il y a parfois certaines pistes, certaines affaires qui sont abordées et puis on n'en entend plus parler. Donc parfois on se dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas un manque de... Enfin, on va pas jusqu'au bout dans certaines histoires, je n'en sais rien, hein. Mais globalement ça se tient quand même très très bien. Les personnages aussi sont très vite caractérisés, attachants, et donc oui, j'ai vraiment trouvé cette première saison, en espérant qu'il y en ait d'autres, toujours assez convaincante. Ça m'a plutôt plu, et il n'y en a pas tant que ça, hein, des séries qui se plongent à fond dans le monde de la presse en tant que telle, donc c'est pas mal joué.
Voilà, tu as bien aimé, de toute façon, tu étais déjà friande.
Oui, c'est vrai que j'avais aimé The Newsroom, par exemple, sur un tout un autre modèle, The Bold Type, ne me déplaît pas non plus. Voir évoluer le monde de la presse et la manière dont les gens peuvent travailler dans ce milieu-là, ça peut être intéressant, mais comme tous les milieux professionnels peuvent être intéressants, surtout quand ils ont une portée un petit peu sociale et politique qui peut... leur faire dire des choses sur notre société actuelle, quoi.
Bien.
Voilà, ça bon. C'était presse, donc, tout bêtement. Je passe à la deuxième série, qui est aussi une série de la BBC, si je ne m'abuse. Cette fois-ci, je vais peut-être un peu vite en besogne en disant qu'il s'agit d'une série, parce que c'est plus un téléfilm en quatre... En quatre épisodes, quoi. On a quatre épisodes de plus ou moins une heure. Ça s'appelle The Cry.
Ok.
Alors, The Cry, ça nous parle de quoi ? Ça, c'est assez compliqué parce que on ne découvre véritablement de quoi ça parle que très progressivement, petit à petit. On commence véritablement l'histoire en abordant une jeune femme qui s'apprête à raconter son histoire face à une psy. On croit le comprendre un petit peu sur le même modèle que... je me souviens plus. Tu vois la série qu'on avait vue avec au 19e siècle, avec la jeune femme qui était emprisonnée, considérée comme folle parce que probablement elle avait tué son patron.
Oui, je vois de quoi tu veux parler, oui.
Il me semble qu'il y avait Grace dans le nom, mais bon, bref. sur le principe, ça ressemble un petit peu à ça, ou bien ça peut aussi faire penser à la série Accused, où on commençait par voir les gens qui s'apprêtaient à rentrer dans l'audience de leur procès, hein, et puis on découvrait seulement ce qu'ils avaient fait, et ça apportait une certaine tension parce que on les voyait vivre leur vie comme ça en se disant ben, finalement il n'y a rien qui peut nous faire penser qu'ils vont basculer du côté du crime, et pourtant ben, on le savait à l'avance, et donc ça mettait une certaine tension. Ici, le premier épisode, c'est vraiment ça aussi, vu que on commence par voir qu'elle est chez le psy, et puis on croit comprendre aussi que elle va être jugée, et puis on fait un flashback et on la voit simplement jeune femme commençant une histoire d'amour, et puis les choses se faisant petit à petit, tombant enceinte, ayant un petit enfant. Et on sent vraiment la tension s'installer de manière très très lente et subtile. On ne sait pas où se situe le malaise exactement, mais clairement il y a un malaise. Et c'est assez envoûtant à regarder à ce niveau-là. On est dans l'expectative vraiment de la révélation, quoi. On veut savoir ce qui s'est passé, en craignant évidemment, vu qu'on voit bien que on a un petit enfant, un tout petit bébé qui est concerné dans l'histoire, et qu'en plus ben, le bébé apparemment elle a un petit peu de mal, c'est une très jeune maman, donc elle a du mal à s'en occuper puisque c'est le début, il arrête pas de pleurer, etc. On sent qu'il y a une pression et que ça va mal se finir, quoi. Mais c'est très bien mené. Je n'en dévoile pas plus, sachant que ici, on est uniquement dans le premier épisode, ce qui est particulièrement bien mené, même si, comme je l'ai dit, finalement, c'est pas une série en tant que telle, vu qu'il y a que quatre épisodes, et j'imagine mal qu'il y ait une suite à ces épisodes, mais on a une construction narrative avec de vrais rebondissements à la fin de chaque épisode. On apprend, on a une révélation à chaque fois qu'on voit vraiment pas venir à la fin de chaque épisode, et je dois dire que c'est assez bien joué, quoi. On a une vraie compréhension de la manière dont peut se construire un récit épisodique dans cette petite mini-série qui vaut malgré tout le détour, j'ai trouvé. Ça se tient très bien, les acteurs sont très bons et l'histoire en tant que telle peut valoir la peine, même si bon, j'émettrais peut-être un peu plus de réserve sur le dénouement final. Cette fois-ci, j'ai vu les 4 épisodes en entier. Certains pourront peut-être trouver le personnage principal finalement un peu caricatural dans le rôle de la mère, enfin ici vraiment le stéréotype de la mère en tant que telle, ça peut être un petit peu dérangeant éventuellement, mais voilà, en soi très bonne fiction qui se tient très bien jusqu'au bout, mais évidemment étant donné que c'est relativement court, pour quelqu'un comme moi qui aime les séries qui durent, ben ça reste quelque chose de que je vais probablement assez vite oublier, et ça c'est un petit peu dommage quand même, quoi. Je sais que c'est pas du tout la mode de dire que c'est embêtant d'avoir des séries qui durent pas longtemps, mais moi je le dis, voilà, j'aime les séries qui durent, j'aime pas les trucs où mais tu vas voir c'est bien, en plus il y a que autant d'épisodes, ben non, ça m'ennuie, voilà. Bon, on passe à la toute dernière série dont je voulais parler aujourd'hui. Cette fois-ci, c'est pas une nouveauté. Tu connais le principe. Je voulais parler de la saison 2 de The Deuce, que j'ai vue en entier. The Deuce, donc, série de David Simon, qui nous retrace les débuts de l'industrie pornographique dans le Manhattan des années 70.
Oui.
Cette saison 2 était, je dois dire, pleine de surprises, hein. Je l'ai trouvée quand même, elle a assez bien réussi à renouveler les enjeux pour la majorité de ses personnages, et ça c'est assez appréciable quand on regarde une série comme ça qui, elle, a vraiment l'ambition d'être une chronique qui peut éventuellement durer un certain temps. On a aussi une vraie ouverture sur certaines questions comme la place des femmes dans l'industrie pornographique, la manière dont la domination masculine peut encore s'exercer de manière différente d'ailleurs en fonction des publics face auxquels on se retrouve. Évidemment, les producteurs de films ne l'exprimeront pas de la même manière que les macs des prostituées, mais on a vraiment tout un éventail de possibilités qui est assez intéressant à décortiquer. Alors c'est quand même une série, notamment parce que les épisodes sont relativement longs, qui par rapport aux autres séries de David Simon, je dois dire que je reste quand même un petit peu sur ma faim, dans la mesure où les personnages, je n'arrive pas à m'y attacher autant qu'aux personnages de Wire, ou même que d'Entremet, par exemple. Je ne sais pas ce que toi tu en penses.
Oui, clairement l'attachement, mais c'est peut-être parce qu'ils ont tous des rôles un peu... Ce milieu-là n'est pas très attachant, tu vois.
Oui, c'est ça. C'est vraiment pas facile. Et aussi, ce que je trouve un petit peu dérangeant, c'est que certains personnages, ceux qu'on essaie quand même un petit peu de sauver ou de présenter comme sympathiques, on a du mal à penser qu'ils soient aussi naïfs ou qu'il soit possible d'être aussi ignorants sur les enjeux réels dans lesquels ils sont en train de travailler, quoi. Je pense principalement au personnage de Vincent et à sa petite amie, hein, qui sont plongés en plein dans le milieu de la prostitution et de la mafia qui gère toutes ces affaires-là et qui en même temps essaie de se présenter dans une espèce de virginalité morale qui me paraît assez peu à propos. Parfois on se dit, enfin moi en tout cas je reste un petit peu sur ma faim quant aux motivations, parce qu'il y a certains moments où on se dit, ah, ils viennent de prendre conscience de quelque chose et puis on comprend pas pourquoi ils restent. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage, quoi. Pourquoi ces gens restent là où ils sont? À aucun moment c'est exploré plus que ça. Quand c'est le cas des prostituées, évidemment, on comprend davantage pourquoi elles restent, même si c'est pas le cas de toutes, mais quand même, globalement, on a une idée assez claire de, pour chacune d'entre elles, quels sont les enjeux qui les traversent. Mais par contre, pour les autres personnages, c'est beaucoup plus flou, je trouve. Et ça, c'est un petit peu dommage. Peut-être que finalement, les personnages des prostituées et peut-être aussi des macs sont les mieux dessinés, je trouve. Au niveau de la psychologie, il y a plus un manque au niveau des personnages qui sont censés être un petit peu plus des supports d'identification, puisqu'ils apparaissent plus dans une forme de normalité à laquelle on pourrait éventuellement s'identifier, quoi. Je pense évidemment à Vincent et à sa petite amie principalement. Donc voilà, je sais pas si toi t'as quelque chose à rajouter, mais c'est à la fois un vrai plaisir de se dire cette série est quand même particulièrement bien menée. Il y a des choses qui sont dites qui sont intéressantes, etc. Et à la fois, quelques petites réserves malgré tout, quoi.
Nous sommes d'accord.
Ok, bon, alors on va passer à la musique.
Si tu le dis.
On va s'écouter Up All Night de Beck, entendu dans The Originals. When you crack the rhythm and words I'll make you cold. When they break it down in this world is all you know. When you call the dominoes fall, it's time to go. Now I'm feeling so far away. I see the colors and all the kids going home. Now
La suite de cette émission Série Folie, 9e épisode de la saison 6, avec un sujet du jour qui va être abordé là tout de suite. Quel est-il, Aurore ?
Alors bon, je te préviens, c'est un sujet un petit peu compliqué.
Aïe.
Oui, on va parler du rôle du public dans les séries télévisées. Et un mot un petit peu particulier pour parler de ce rôle qui est l'auctorialité. Alors, j'avais prévenu en début de saison que, après avoir lu le livre de Mathieu Letourneux, « Fiction à la chaîne », j'allais parfois m'appuyer sur ce qu'il raconte pour les émissions. Ce sera notamment le cas de cet épisode-ci. Donc, alors, je dois t'avouer que je ne sais pas si j'imagine que ce n'est pas lui qui a inventé ce concept-là, mais il en parle beaucoup et de manière, je dois dire, assez convaincante. Donc, je vais essayer d'expliquer ça au mieux en essayant de ne pas trop dénaturer son propos. Et puis, ben, tu auras peut-être l'occasion de me dire ce que tu en penses.
Voyons ça, oui.
Oui, alors, bon, l'idée, en gros, alors on va pas se mentir, hein, je vais probablement être très, très oui, grossière dans le sens caricatural dans ma manière de présenter les choses aujourd'hui, mais bon, plus une série... dur. Bon, ici, je vais me concentrer principalement sur les séries télévisées, évidemment, même si dans son livre, il parle de toutes les formes de fiction qui prennent une forme sérielle, donc en commençant évidemment davantage par ce qu'il y avait avant les séries télévisées, c'est-à-dire plutôt les petits récits qu'on trouvait dans les journaux, etc., et qui étaient feuilletonnants. Donc, plus une série dure, bref, je reprends mon propos, plus une série dure et plus elle va échapper au modèle traditionnel de la création. Plus une série dure et moins on va avoir un créateur unique aux manettes qui, du début à la fin, maîtrise l'ensemble de sa création. Au contraire, un des enjeux, qui est un enjeu industriel finalement, hein, de ce genre de fiction à la chaîne, ben, c'est justement de permettre aux personnages ou aux univers qui sont développés par une série de pouvoir être repris par quantité d'auteurs différents, ce qui fait que au final, mais aucun auteur n'a véritablement l'entièreté du savoir sur l'univers et les personnages en question. Aucun auteur n'est le possesseur unique de ce savoir-là. Quasiment, on pourrait dire que l'expertise du public va être aussi importante, voire parfois même éventuellement plus importante encore que celle de certains créateurs, quoi. Parce que si on a face à soi un public qui est, par exemple, extrêmement fidèle à un univers, on pourrait se retrouver dans des situations où certains téléspectateurs connaissent mieux l'univers en question que certaines personnes qui ont fait partie de la writer's room, comme on dit, et on a tous en tête comme ça des images. Alors évidemment, je pense principalement à la représentation qui peut en être faite dans Les Simpsons avec le vendeur de BD qui, dans des conventions Star Trek par exemple, va alpaguer l'un ou l'autre auteur en lui posant une question tellement précise que aucun d'entre eux n'est capable de répondre. Mais on a cette idée que le public, à partir du moment moment où on est dans un monde hyper étendu. Et il faut bien se dire aussi que une des spécificités de ces fictions-là, c'est de pouvoir se décliner dans plein de supports différents. Ça ne se concentre pas uniquement sur la télévision, ça peut terminer au cinéma, ça peut se décliner en comics ou en livres, tout simplement. Enfin, on a en jeux vidéo, éventuellement, en dessin animé. Enfin, on a plein de déclinaisons possibles de certains de ces univers-là qui rendent véritablement l'omniscience du créateur impossible, quoi, hein. Et donc le public finit par en connaître autant, si pas plus, sur la série en question que l'auteur. Ce qui fait que le public, finalement, devient auteur, et c'est ça le principe d'autorialité, il devient auteur au même titre que les auteurs eux-mêmes, les différents auteurs eux-mêmes. Pourquoi ils deviennent auteurs ? Pas tellement évidemment parce qu'ils auraient leur mot à dire, quoique, hein, il y a certains moments malgré tout où on sait que l'influence du public peut jouer dans certains rebondissements de séries, mais surtout, on va se retrouver face à des fictions qui vont laisser énormément de place au public pour qu'il comble les vides. Finalement, on sait que le public sait déjà beaucoup de choses sur le passé de l'univers, sur l'extension de l'univers, etc. Et donc, on n'a pas besoin de les répéter dans cet épisode-ci en particulier. Et donc, on va se permettre de, finalement, laisser énormément de blanc dans la série, en sachant que les téléspectateurs, finalement, sont capables de combler également les vides. Ce qui fait que, et on peut tous le constater, hein, plus on avance dans une série, et moins un épisode va avoir de l'intérêt pour les personnes qui n'ont pas suivi la série depuis le départ. On a tous déjà essayé, parce qu'on est en train de regarder un épisode d'une série qu'on adore, de alpaguer un ami ou une connaissance en lui disant « Ah mais oui, tu vas voir, c'est génial, reste avec moi et je t'expliquerai au fur et à mesure ». Mais on voit bien que c'est extrêmement difficile de le faire accrocher parce que il a pas tous les codes, il a pas l'expertise que nous on a sur l'univers en question, sur les personnages en question, et donc tous les blancs que nous on ne voit pas parce qu'on les comble au fur et à mesure de l'épisode, ce sont des manques qui font qu'il n'accrochera pas à la série s'il commence comme ça, s'il veut commencer au beau milieu d'une saison beaucoup plus avancée, quoi. Hein. J'espère que tu vois plus.
Oui, je vois bien.
Ce que je veux dire.
La mise en place est beaucoup moins définie dans les épisodes qui suivent, en fait.
Oui, on
est dans l'univers, on n'a plus besoin de le définir. Et donc,
voilà, exactement. Et donc, il y a plein de choses qu'on ne prend plus la peine de préciser. Évidemment, la conséquence de ça, c'est que l'intention, finalement, des auteurs, toute la question de savoir, oui, mais qu'est-ce qu'il a vraiment voulu dire ? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il a voulu dire au moment où on se pose parfois des questions sur la manière d'interpréter certains épisodes ou certains personnages en se demandant, est-ce que c'est vraiment ce que l'auteur a voulu dire ? Alors que ça n'a peut-être pas tant d'intérêt que ça, puisque si nous sommes auteurs au même titre que les auteurs eux-mêmes, peut-être que notre avis et notre interprétation compte tout autant que ce que l'auteur a voulu dire, quoi. Mais ça explique probablement, en tout cas, je le suspecte fortement, le mépris que peuvent avoir un certain nombre d'auteurs et même d'auteurs de séries qui finalement se sont toujours un petit peu rêvés en auteur de cinéma, avec toute l'aura un petit peu à la fois évidemment de légitimité, mais j'ai l'impression aussi de de toute puissance, tu vois, de démiurge qui décide vraiment du début à la fin ce qu'il en est de sa création. Je pense à la génération du renouveau finalement des séries comme David Chase ou bien non, je me souviens plus de son prénom, le créateur de Mad Men, Weiner. On sent dans leur discours qu'il y a parfois un vrai mépris pour la série télévisée et finalement parfois une volonté de faire de la série télévisée le nouveau cinéma pour se réapproprier un petit peu la création, quoi. Donc, finalement, préférer une série courte qui présenterait des histoires finies, closes sur elles-mêmes, hein, comme beaucoup de personnes le réclament actuellement, pour moi, c'est vraiment valoriser la passivité et le manque d'imagination de la part des téléspectateurs, quoi. C'est demander comme des petits oisillons dans le nid, nourrissez-nous, mais nous, à aucun moment, on est prêt à faire l'effort de devenir auteur de nos propres fictions. Or, moi, si j'aime autant les séries, c'est probablement en grande partie parce que les séries m'offrent la possibilité de devenir moi aussi auteur de ce que je suis en train de voir, quoi. Finalement, avec la légitimation progressive de l'objet série, l'évolution actuelle favorise aussi une rigidification, une sorte de sanctuarisation, de sacralisation des univers. On le voit notamment avec les cris d'orfraie qu'on peut crier, qu'on peut pousser à chaque fois que une série veut être relancer à la vie, à laquelle on essaie de redonner vie. À chaque fois, on a l'impression qu'on est en train de toucher un monument qu'il serait inacceptable de faire revivre, alors que normalement le principe même d'une série, d'un univers sériel, c'est que il doit pouvoir ne jamais s'arrêter, quoi. Et donc le fait qu'il puisse recommencer à tout moment, en soi, c'est pas une mauvaise chose. Enfin, j'ai du mal à comprendre comment on peut trouver que c'est une mauvaise chose. Bon, donc ça explique grandement le fait qu'aujourd'hui on a une multiplication de mini-séries, puisque finalement ça va permettre, oui, d'avoir des œuvres beaucoup plus maîtrisées par certains auteurs, quelque chose de beaucoup plus légitime. Finalement, à chaque fois que quelque chose devient légitime, c'est aussi un mouvement qui va mettre peu à peu le public à la porte de l'art en question, quoi. J'ai vraiment l'impression que c'est de ça qu'il s'agit et qu'on pourrait retrouver ce même mouvement à chaque fois qu'un art en arrive à un moment de légitimation où il devient reconnu comme étant un véritable art. Là, petit à petit, on met le public à la porte au profit des seuls créateurs qui, là, deviennent vraiment des dieux, des démiurges en tant que tels, quoi. Alors que, finalement, s'inscrire, que ce soit dans un genre particulier ou dans un format, comme c'est souvent le cas des séries télévisées, à ce propos, justement, le fait que les formats, on les abandonne de plus en plus actuellement, notamment avec les plateformes telles que Netflix, Amazon, etc. Quelque part, c'est dommage parce que s'inscrire dans ces contraintes-là, pour un auteur, c'est finalement aussi faire l'effort d'offrir ce qu'on a à dire dans un cadre, dans un univers culturel qui nous dépasse parce qu'il est partagé par un ensemble de personnes beaucoup plus vaste que nous, quoi. C'est essayer de s'inscrire dans un mouvement culturel et idéologique qui est beaucoup plus collectif et auquel tout le monde est appelé à participer. Et en ça, mais finalement, ça peut très facilement rejoindre le fonctionnement des mythes tels qu'on peut imaginer qu'ils ont été créés aux origines, quoi. Donc finalement, dans les séries, il n'y a jamais de nouveauté absolue. Mais il y a un changement de regard qui est possible, ce qui fait que il faudrait préférer la sérialisation de l'univers à la perfection d'un monde clos sur lui-même. C'est vraiment vraiment pour ça en partie que j'essaie de me battre. C'est combattre l'idée que si une série dure trop longtemps, c'est mal. D'ailleurs, l'idée que ça dure trop longtemps en soi, ça me paraît être une hérésie absolue. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'imparfait dans la série, puisque c'est quelque chose qui ne se termine pas ou qui n'est pas destiné, en tout cas, à se terminer. Donc, il y a quelque chose de jamais fini totalement. Il y a quelque chose qui reste toujours en partie ouvert. Mais quelque part, c'est par cette ouverture-là que nous, petits téléspectateurs, ben, on peut un petit peu rentrer et se faire sa place. Et je trouve que ça aussi, c'est une bonne chose. Donc voilà, plutôt que de réclamer à tout prix des objets parfaits qu'on va pouvoir vénérer en tant que tel, comme la troisième création divine. Et je ne sais pas ce que je suis en train de raconter là, pourquoi la troisième, j'en sais rien. Mais peut-être vaudrait-il mieux et finalement prendre conscience de la chance qu'on peut avoir de s'approprier un objet culturel populaire, comme la série télévisée, pour en faire quelque chose auquel on participe tous à notre manière. Voilà, voilà ce que je voulais dire en gros.
Ok, alors juste avant qu'on passe à la musique, par rapport à l'interaction que le public peut avoir avec les auteurs. Souvent, on voit ça, c'est vrai, dans certaines séries illustrées, mais j'ai quand même l'impression que c'est quand ce sont des séries qui sont déjà devenues cultes et qui sont terminées. Moi, je ne vois pas tellement l'influence du public sur un récit en cours, tu vois.
Mais écoute, en tout cas, on entend souvent des personnes, alors souvent d'ailleurs sur un ton critique, regretter ou imaginer en tout cas que les discussions qu'il peut y avoir principalement depuis que les internets existent, hein, que les discussions qu'il peut y avoir de fans sur certaines plateformes aient influencé les auteurs.
Ok, mais et le contact coup, n'est pas direct.
Du fan service entre guillemets, et ça, oui, c'est le mal, tu vois. Ce serait,
mais ce n'est pas un échange, tu vois, de personne à personne. Ce serait plutôt les auteurs un peu comment dire, paresseux ou en manque peut-être d'inspiration, qui se diraient bon ben voilà, on va aller voir un peu ce que nos fans en pensent.
Oui, en tout cas, c'est le soupçon qui est toujours, qui se trouve toujours un petit peu caché derrière
mais,
ça.
Mais en gros, il reste ces fameux dieux, tu vois. Puisque comme il n'y a pas d'interaction, ils ne sont pas censés admettre qu'ils ont peut-être été inspirés d'un avis extérieur.
Oui.
mais c'est parce que tu présentais ça un peu comme devenu quelque chose d'habituel, ou quelque chose, le public avait vraiment un rôle à jouer.
Ah oui, mais je ne dis pas du tout qu'ils ont un rôle à jouer dans l'écriture de la série, hein. C'est plus dans la réception, le fait de recevoir, de regarder une série, finalement, est un moment d'écriture au même titre que le moment où elle a été écrite physiquement, tu vois, parce que justement, comme on a tellement de blanc à combler, on va chacun combler avec
sa propre
nos
histoire,
souvenirs
finalement.
À nous.
Ouais.
Oui, on a notre propre histoire avec cet univers-là finalement, et donc, mais ça va permettre à chaque fois que quelqu'un qui a quand même un minimum d'expertise sur la série regarde un nouvel épisode, eh bien, il le réécrit à sa manière. C'est plutôt dans ce sens-là, plus que dans une influence directe sur les auteurs en tant que tels, quoi.
Alors, on peut dire qu'un bouquin, c'est un peu pareil.
Un bouquin qui serait sériel, oui, dans la mesure où ça demande quand même d'avoir une certaine expertise pour savoir comment on
va prendre la série des Harry Potter, par exemple. Savoir qu'on en a déjà lu 3 et qu'on lit le 4e, ça peut aider parce que c'est toujours mieux que quelqu'un qui prendrait le 4e au vol, quoi, et qui n'a jamais vu les 3 premiers.
Oui, bien sûr. Même si on est quand même dans un cadre où finalement il n'y a que 7 volumes en tout et pour tout, donc on est dans un cadre relativement restreint, mais si on pense à des univers beaucoup plus larges, je ne sais pas moi, les Sherlock Holmes ou Batman ou tu vois ce genre de personnages-là qui ont été déclinés dans plein de formats différents, plein d'épisodes différents, parfois les plus farfelus, etc. On va avoir parmi les publics des vrais experts des fictions en question qui vont pouvoir y voir des choses qu'à la limite les auteurs eux-mêmes n'avaient même pas pensé à y mettre.
Okay.
Voilà.
Bien, on va passer à la musique.
Alors, on va s'écouter Baby One More Time de Britney Spears, entendu dans Superstore.
Loneliness
Nous voici déjà arrivés à la fin de cette émission qui vous parle de séries télévisées. Alors, ce fameux public, son rôle, Aurore.
Alors, là, j'ai l'impression, plus ou moins, expliquer ce que je voulais dire par le rôle particulier du public pour les séries télévisées par rapport éventuellement à d'autres formes de fiction. Ici, je vais essayer, puisque j'ai dit que malgré tout, la tendance était à la disparition progressive avec une forme de légitimation de cette art particulier, la disparition de ce qui en faisait justement tout l'intérêt. Je me suis posé la question de quels sont les critères des séries qui joueraient encore le jeu des vraies séries, quoi. En quoi elles consisteraient. J'ai trouvé 5 critères qui sont probablement pas uniques. C'est un peu aléatoire le fait que je me sois arrêtée à 5. Peut-être que si j'avais réfléchi un peu plus longtemps, j'en aurais trouvé 6 ou 7. J'en sais rien, mais en tout cas, ces 5-là me semblent quand même relativement importants. Ce sont ceux qui m'ont paru me sauter le plus évidemment aux yeux. Sachant, j'ai dit que c'était en train de disparaître sous la forme série télévisée. Alors, on n'est jamais à l'abri, évidemment, d'un renouveau. Hein. On sait que le fonctionnement de ce genre d'industrie fonctionne de manière assez cyclique. Et puis, il y a aussi l'idée que, sans doute, de nouveaux supports, on peut penser, par exemple, aux jeux vidéo ou ce genre de choses-là. Pourquoi pas les podcasts aussi, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il ne faut pas s'imaginer que parce que les séries télévisées auraient évolué vers une forme de légitimation, l'idée d'art populaire où le public est co-auteur aurait disparu totalement. Bref, je reviens sur mes 5 critères, donc, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Le premier, ce serait l'idée que, évidemment, il y a un potentiel indéfini d'épisodes. On n'est pas censé s'arrêter à la résolution, par exemple, d'une intrigue. Hein. Au contraire, généralement, les intrigues, d'ailleurs, s'imbriquent les unes dans les autres, se mélangent. Et donc, la résolution n'est pas la fin. Ça, c'est un des principes de la série télévisée, mais des séries en général. Alors, ça peut être simplement parce que chaque épisode va avoir une intrigue différente, mais finalement, le cadre, lui, peut supporter un nombre infini d'épisodes. Hein. On peut penser à Law and Order, qui est un excellent exemple de ça, ou les Simpsons aussi. Ou bien alors, comme dans, par exemple, les soap opéras, où on a tellement d'intrigues qui s'imbriquent les unes dans les autres, que finalement, quand une se termine, enfin, je sais pas si d'ailleurs il y en a, ça arrive si souvent qu'il y en a une qui se termine, mais bon, bref, eh bien, il y en a une autre qui, il y en a plein d'autres qui sont encore ouvertes, quoi. Deuxième critère, on a des personnages qui sont très clairement caractérisés et qui sont assez simples à identifier. L'idée, c'est que finalement, ce sont plus des types qui vont pouvoir être pris par plein d'auteurs différents. Ça doit pas être très compliqué pour les auteurs à les reprendre à leur compte et pour le public de les identifier rapidement. Troisième critère, ensuite, on a un fonctionnement de ces fictions qui finit par prendre la forme d'un monde ou d'un univers en tant que tel, qui va de plus en plus évidemment fonctionner dans l'auto-référence, puisque, comme je l'ai dit, il y aura énormément de blancs à combler, et ces blancs à combler le seront par les épisodes précédents ou des choses qu'on sait déjà sur les personnages d'autres moments, etc. Donc on a vraiment la tendance à l'autoréférence ne va faire que normalement s'amplifier au fur et à mesure que la série avance. Ensuite, quatrième critère, on a une autorialité donc flottante, non rigide, ce qui veut dire que on appelle finalement le public à l'interprétation et à s'investir personnellement du coup dans sa son action de regarder la série en tant que telle. Cette série, c'est un petit peu lui, quoi. Il y met un petit peu sa personnalité à lui. Donc, c'est pour ça que je dis, finalement, l'intention de l'auteur dans cette histoire n'a pas tant d'importance que ça. Et enfin, cinquième et dernier critère, donc... on a moins une écoute en tant que telle du public qu'un jeu avec lui, un jeu entre experts, quoi. Les auteurs véritablement des épisodes vont jouer avec l'expertise du public, les deux vont se répondre et c'est comme ça que va se créer tout l'intérêt de ce genre de fiction-là. Voilà.
Merci Aurore pour ce beau résumé.
Mais de rien.
À tout bientôt, on va se quitter en musique.
Oui, on va se quitter avec Ordinary World de Duran Duran, entendu dans Everything Sucks.
Forgot tomorrow.